Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Elite. Bienvenue à tous au nouvel épisode du podcast Commerce Elite présenté par l'agence Pure Commerce, un partenaire de croissance qui veut transformer votre commerce en ligne en commerce élite. Et aujourd'hui, on parle des techniques à mettre en place afin d'augmenter son LTV. Et on enchaîne par la suite avec une discussion portant sur l'impact socio-environnemental que les boutiques en ligne se doivent d'avoir en 2022. Cette semaine, tout est parti d'un webinaire sur LinkedIn auquel nous avons assisté entre Shopify, Yotpo et un commerce électronique. Celui-ci avait pour titre « Why Shopify Brands are Doubling Down on LTV in 2022 ». Le lien complet vous sera fourni dans la description de l'émission. Ce titre veut dire littéralement que les commerçants sur Shopify vont tenter de doubler la durée de vie en valeur de leurs clients pour 2022. Dans le but de simplifier la chronique, je vous propose de raccourcir ce terme par LTV. Le webinaire en soi ne représentait qu'un simple coup de communication pour Yotpo, mais la véritable information se trouvait dans les interventions de Addison, partenaire stratégique chez Shopify. Addison nous explique une chose excessivement intéressante lorsqu'on opère dans le commerce électronique. Il faut absolument que notre LTV augmente cette année, puisque deux facteurs entrent en jeu. Déjà, il observe à l'interne une augmentation féroce de la compétition, ce qui signifie plus d'offres pour le client final, plus de produits, plus de choix, plus de masse et surtout plus d'efforts publicitaires. L'arrivée d'iOS 14 au début de l'année 2021 représente le deuxième facteur qui a nettement impacté les campagnes publicitaires de toutes plateformes confondues. Addison nous explique qu'à l'interne, ils ont pu observer une hausse du coût par clic de 15% lors du deuxième et troisième trimestre de cette même année. Et si votre CPC augmente, vos ventes, eux, risquent de suivre le chemin inverse. Et c'est là que se pose le vrai problème. Le coût d'acquisition d'un nouveau client selon Shopify est 5 à 10 fois plus élevé que son coût de rétention. On connaissait déjà cet adage, mais il est exacerbé aujourd'hui par les deux facteurs suivants, une concurrence féroce et un coût d'acquisition plus cher. Yotpo et Shopify préconisent d'utiliser le modèle d'abonnement pour essuyer ce problème puisqu'il vous garantit un revenu récurrent de vos clients. C'est un modèle en plein essor et c'est certain. Et nous en avions justement parlé lors d'une chronique de l'épisode du 17 mai avec cette industrie alléchante. Mais est-ce possible de se lancer directement dans une offre d'abonnement? Je ne pense pas, car c'est un modèle d'affaires différent d'un commerce électronique standard. Par contre, vous pouvez travailler à augmenter votre LTV vous-même et c'est ce que nous allons voir rapidement dans cette chronique. Facebook Ads. Si la publicité vous coûte plus cher en diffusion, il y a une solution évidente à ce problème et elle date des derniers Black Friday de notre agence. Comprenez que lors du Black Friday, les CPM sont tellement hauts qu'il serait assez maladroit de faire de l'acquisition à ce moment. À titre de rappel, ce n'est pas parce que vous payez plus cher votre diffusion que vous en vendrez plus. Donc, comment pouvons-nous arriver à vendre dans ces conditions? Il suffit d'aller chercher votre audience chaude, celle qui vous connaît déjà. Et cette stratégie fonctionne très bien pour votre LTV sur le reste de l'année, mais il faut l'adapter. Et on a deux campagnes qu'on aime bien faire dans ce cas. La campagne numéro 1, le cross-selling. C'est une campagne de publicité dynamique avec laquelle vous ciblez tous les acheteurs de tel ou tel produit. Puisqu'ils ont acheté ces items, vous leur en proposez d'autres qui vont améliorer leur expérience. Autrement, si vous vendez des produits périssables, comme du café, cette campagne vous permet d'aller chercher des clients qui ont passé une commande il y a 30 jours par exemple, pour leur proposer d'en passer une nouvelle avant même qu'ils soient à court de café. De cette façon, vous intervenez avant que la personne ne cherche d'autres alternatives et vous fidélisez une fois de plus votre client. Numéro 2, la campagne de remerciement. La deuxième campagne qu'on aime tester concerne les clients récents. À plusieurs reprises, nous avons ciblé des acheteurs dans les 30 ou 60 derniers jours, simplement pour les remercier de leur achat. L'idée peut être également de leur donner un code promotionnel pour leur prochain achat, ce que vous pouvez faire conjointement à l'emailing. Alors, l'idée est surtout d'être toujours présent dans la tête de votre client et de lui offrir rapidement un nouveau contexte d'achat. Plusieurs fois, cette campagne nous a rapporté des résultats assez intéressants. Et globalement, en publicité payante, il ne faut jamais avoir peur de mettre les acheteurs des X derniers jours dans votre ciblage, surtout quand vous avez une promotion en cours ou une nouvelle collection qui arrive. Une erreur fatale consiste à penser qu'ils reviendront d'eux-mêmes ou qu'ils seront au courant de vos nouveautés. Si la publicité Facebook vous intéresse d'ailleurs, je vous invite à aller écouter notre podcast Social Selling. Emailing. Si vous nous suivez depuis le début, vous commencez certainement à avoir de bonnes connaissances en emailing et SMS marketing. Normal, nous en avons discuté durant 3 épisodes complets. Et si vous découvrez CommercialLead avec cet épisode, je vous invite fortement à aller les consulter. Autrement, pour cette chronique, je vais faire simple et me baser sur 2 pratiques bien importantes, la séquence et la segmentation. Construisez des séquences de relance sur vos anciens clients. Abandon de panier, anniversaire, réactivation, nouvelle promotion ou nouvelle collection qui sort. Par la même occasion, construisez des segments d'acheteurs pour ne pas trop généraliser et baisser votre pertinence. Si vous cherchez une collection de produits très large, il est mieux de créer des segments de réactivation selon des profils types d'acheteurs. Rien qu'avec ces 2 leviers, vous devriez pouvoir augmenter votre LTV et baisser votre coût par achat moyen. Mais il en reste bien d'autres, notamment en jouant sur les offres ou encore sur votre tunnel de vente. Nous en parlerons dans un prochain épisode. La croissance et la profitabilité sont 2 vecteurs excessivement importants quand on bâtit n'importe quelle entreprise. Si on ne possède pas de profit, difficile d'avoir les moyens de nos ambitions. Et si on ne possède pas de croissance, on risque de ultimement vivre de la décroissance. Et au-delà de ces 2 éléments, quels sont les autres thèmes primordiaux qu'un commerce en ligne se doit d'aborder en 2022? Selon mes invités du jour et moi-même d'ailleurs, le volet socio-environnemental est un des éléments les plus indispensables. Les consommateurs ne cherchent plus seulement un produit, mais également les valeurs derrière l'entreprise. On en a discuté lors de la journée e-commerce du 8 avril dernier avec Jérémia Curvers de Polysleep, Claude-André Lemieux de Statera et Pierre-Olivier Brassard de Novatice. Bonne écoute! Donc, on est de retour sur la scène Google Cloud pour notre 2e enregistrement de podcast du jour avec des gens qui vont avoir à faire des conférences aujourd'hui pour la journée e-commerce, une journée qui est déjà assez chargée depuis ce matin. Et pour le 2e entretien du jour, le 2e enregistrement, on a 3 acteurs du commerce en ligne qui vont être avec nous et qui vont parler d'un sujet spécifique, l'engagement social. Qu'est-ce qu'une boutique en ligne en 2022? Qu'est-ce qu'une entreprise en 2022 se doit de faire en tant qu'organisation pour faire sa part et avoir un engagement social pour des causes qui nous sont chères? Donc, les gens qui sont avec nous aujourd'hui, notre premier panéliste, Jérémia Curvers, président et fondateur de l'entreprise de matelas Polysleep. C'est important de le mentionner, Polysleep, vous remettez un matelas à des œuvres caritatives à chaque fois que vous en vendez 10. Très intéressant et très important à mentionner. Et Polysleep s'engage également à livrer une bonne partie de ses matelas à vélo quand les commandes sont dans des centres urbains. Jérémia, merci beaucoup d'être avec nous. Tu commences à être un habitué. On en fait beaucoup des podcasts ensemble.
En effet, j'aime bien ça.
Fantastique. Notre 2e panéliste, Claude-André Lemieux, qui est coordonnatrice e-commerce et marketing de l'organisation Statera Spiritueux, une entreprise qui vend du gin sans alcool et qui s'engage à remettre 1% de ses revenus à des organisations sans but lucratif axées sur l'environnement. Claude-André, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Bien, merci de m'accueillir.
Et le dernier panéliste qui s'est intégré avec nous, mais il a le droit parce qu'il est derrière la journée e-commerce, Pierre-Olivier Brassard, qui est cofondateur et chef des opérations chez l'entreprise Novatice. Oui. Et je pense que chez Novatice, en plus de votre agence, vous possédez maintenant quelques boutiques en ligne et vous avez un certain engagement social également avec ces différentes boutiques en ligne-là. Merci, Pierre-Olivier, d'être avec nous.
Merci de m'avoir accueilli à la dernière minute comme ça.
Bien, c'est ça ce qui est intéressant dans des podcasts, c'est que c'est des discussions un petit peu informelles. Mais on a un sujet qui est un sujet excessivement intéressant du moment. L'engagement social, un incontournable en 2022 pour les commerces en ligne. Et je commence avec le premier sujet en vous donnant un petit peu de contexte. Mesdames et messieurs, le Future Consumer Index, c'est le rapport annuel de Ernst & Young à propos des modes de consommation mondiale. Et EY segmente ses participants selon 5 groupes. Donc, je vous donne un peu de contexte. Les groupes, c'est ceux qui achètent en fonction du prix parce qu'ils veulent économiser ou ont des problèmes financiers. Et sans surprise, c'était le groupe le plus puissant au niveau mondial des 2 dernières années. Okay? Donc, c'est 30% du groupe qui a ce rapport-là. Et ceux qui sont Planet First, ceux qui pensent un petit peu plus à l'environnement selon le sondage et qui recherchent la transparence et qui achètent local et qui font attention à leur impact sur leur environnement, c'était beaucoup moins. On arrivait ici à 16% seulement. Mais les choses ont évolué et les choses ont évolué beaucoup depuis octobre 2021 et le groupe est passé de 18% à 26% et aujourd'hui, il dépasse le groupe. Il est la première place du groupe. Les gens qui sont Planet First prennent la majorité des gens qui vont acheter maintenant, qui vont avoir une conscience autour de ça. Beaucoup de contexte pour vous poser une question maintenant. Est-ce que cette tendance-là, Planet First-là, c'est pas en train de devenir inévitable, incontournable pour n'importe quelle entreprise? Jérémia, je me tourne vers toi.
c'est définitivement une évolution qui, je pense, est logique dans le contexte actuel où on réalise de plus en plus l'importance qu'une entreprise peut avoir sur une société où jusqu'à présent, on avait vraiment laissé les gouvernements faire le travail.
Bien sûr.
Et je pense aussi que le phénomène va continuer d'être accéléré. Moi, je me pose toujours la question, puis la réalité vient devant le fait accompli. En 2025, 50% des forces de travail vont être dans la Gen Z. Et la génération Z, contrairement à la majorité des générations qui venaient avant, au même titre que les investisseurs, le salaire vient en troisième place.
Ouais.
Et avant ça, il y a la flexibilité. Et en première place, c'est le bien-être. Qu'est-ce que cette entreprise fait pour moi dans la vie? Et je pense que ça va se refléter. Ça se reflète déjà dans l'évolution des marchés financiers. Donc, je pense que c'est vraiment une question qui est au cœur même de l'entrepreneuriat aujourd'hui. C'est qu'est-ce que je peux faire pour, un, changer ou apporter quelque chose de nouveau dans une industrie, qui est celle où je vais pénétrer, dans notre cas, nous, le matelas. Et comment je peux challenger cette industrie à offrir un meilleur service ou un meilleur produit aux clients, mais également des manières de le livrer qui sont beaucoup plus soutenables et pérennes pour la société.
Vous le faites à vélo, vous, déjà, c'est bien. Là.
On aimerait le faire à vélo dans plus d'endroits qu'on le fait. C'est sûr que dans les régions métropolitaines comme Montréal, par exemple, oui, c'est possible. Il y a certains endroits où...
Peut-être un peu plus complexe.
C'est un petit peu plus complexe.
Mais c'est un pas dans la bonne direction.
Absolument.
Et je me tourne vers toi, Claude André. Vous redonnez, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt avec votre organisation, 1% de vos ventes à des organismes à but non lucratif. Cette décision-là, ça s'est pris dès le départ. C'était important pour vous, au lancement de l'organisation, de se dire, nous, là, au départ, dès qu'on va commencer à faire des ventes, on fait un geste important pour montrer un petit peu que c'est important pour nous, l'engagement social et l'impact que nos produits vont avoir sur l'environnement.
Ben oui, dans le fond, Jean-Philippe Paradis, le président de Statera, c'est celui-là qui a amené, dans le fond, le 1% for the planet. C'était comme inévitable pour lui de ne pas l'amener dans notre entreprise puis de ne pas être membre. Parce que, tu sais, c'est un petit geste pour nous, c'est rien, mais si toutes les entreprises, ils se mettaient à faire un petit geste comme ça de 1%, que ce soit pour l'environnement, pour des causes sociales, tu sais, peu importe. En tout, là, 1%, ce serait énorme, là, puis on pourrait régler bien des trucs. Fait que c'était comme inévitable, puis le amener directement avant là, qu'on commence même à faire des ventes avec Statera. Fait que c'est là depuis le début, puis on mise vraiment là-dessus. T'sais, c'est un, comme je dis, c'est un petit geste, mais ça représente une partie des actions qu'on prend puis qu'on souhaite prendre aussi dans l'avenir. Mmh. Là, on est au tout commencement, mais... ça va aller juste dans ce sens-là, à mon avis.
Ben c'est une bonne première action qui a été prise. Je me tourne vers toi par la suite, de Pierre-Olivier. Bon, vous avez Novatime, vous avez d'autres boutiques en ligne qui travaillent avec vous. On dirait que, et vous êtes beaucoup dans le recrutement, vous engagez beaucoup de gens, on dirait vraiment là, que c'est... Puis je ne sais pas si vous le voyez également de votre côté, mais les employés vont poser ces questions-là. C'est quoi les valeurs de votre organisation au-delà de simplement axer sur la profitabilité, les revenus, tout ça? On doit faire un petit peu plus maintenant.
Exactement. Puis je pense que Jeremiah avait un bon point avec les nouvelles générations qui sont beaucoup plus sensibilisées. Avant, on laissait ça au gouvernement. Maintenant, on va chercher les entreprises qui vont venir rejoindre nos valeurs. Fait qu'en étant beaucoup plus sensibilisé pour la planète, pour aider la planète. C'est là que vraiment on va s'identifier à plus des entreprises qui ont ces valeurs-là. Puis comme je pense que vous aviez un très bon point, les petits gestes qu'on peut commencer à faire, puis une entreprise est capable de faire ces petits gestes-là, c'est pas obligé de revoir tout le modèle d'affaires, mais je pense que juste de s'associer à des entreprises qui ont des valeurs, c'est vraiment de plus en plus courant chez les employés en ce moment.
Ouais. Et bon, c'est beau le dire, ça peut... On veut utiliser le terme, malheureusement, des fois, être un angle marketing trop facilement utilisé, mais qui, au final, ça fait pas vraiment partie de l'essence même de l'organisation. Donc, moi, la question que je pose, et je reviens vers toi, Jérémia, c'est quoi les étapes qu'on doit suivre là, afin d'intégrer ça là, de manière, on va dire, intègre à l'intérieur de notre organisation? C'est quoi vraiment, comment qu'on peut intégrer ça dans son plan? C'est quoi les actions qu'une entreprise peut prendre pour vraiment avoir cette vision-là et la mettre en exécution ultimement?
En tant que fondateur... parce que je dirais, quelqu'un qui reprend une entreprise va définitivement avoir un autre travail à faire. Mais en tant que fondateur, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui est proche de mon cœur? Quels organismes me parlent et vers lesquels je suis prêt à, d'une manière honnête, m'engager à essayer de travailler avec eux de manière à pouvoir faire une différence. Donc, je pense pas que c'est une réflexion qui doit être faite personnellement, qui doit être associée fondamentalement avec les valeurs de l'entreprise. Dans notre cas, à nous, notre vision, notre mission est vraiment d'améliorer la condition humaine en démocratisant des habitudes saines de sommeil.
Ouais.
Donc, on change pas le monde, on vend un matelas, on vend des oreillers et on vend des surfaces qui, à notre humble opinion, puis je pense qu'on réussit assez bien, améliore la capacité des gens de bien dormir. Maintenant, il y a tout le travail d'éducation qui vient autour. Il y a des gens qui ne sont pas aussi fortunés que d'autres. Donc, le fait de redonner des matelas à des organismes de charité locaux au-dessus de 200 au Canada avec qui on travaille a un effet positif à plusieurs niveaux. Mm-hmm. Premièrement, dans notre cas à nous, au niveau écologique, parce qu'on n'a pas à ramener le matelas à un centre de distribution advenant qu'il y ait un retour. On peut le donner à quelqu'un qui est dans le besoin localement. On peut le donner à une charité qui va peut-être le revendre pour ensuite utiliser ses fonds pour aider des gens. Mais à la base, ça venait de la conviction qui était « Je veux aider les Canadiens, le plus grand nombre de personnes possible, à améliorer leurs conditions de sommeil, qu'ils soient fortunés ou pas.
Ouais. »
Donc, si le travail de fond est vraiment fait de cette manière, ça va transparaître de manière beaucoup plus organique. Donc, je pense pas qu'il faut vraiment s'asseoir avec un papier à dire, OK, c'est quoi mon ESG, là? Mm-hmm. Mais plus de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour moi? Ça peut être des personnes qui ont eu des problèmes d'addiction, des problèmes qui ont eu des personnes dans des milieux de famille d'accueil. Il y a tellement de causes valables aujourd'hui, je pense, qui peuvent être facilement intégrées dans une entreprise tant aussi longtemps que le fondement est basé sur l'honnêteté et le désir profond de faire une différence.
Exactement. Puis après, ce qui est intéressant, c'est que tu poses la question, c'est quoi notre vision, c'est quoi notre mission en tant qu'organisation, mais également, c'est quoi nos capacités? Je me tourne vers toi, là, Pierre-Olivier.
Oui.
Vous êtes une agence là, chez Novatens, vous êtes bientôt 50, 60 personnes dans l'entreprise. Donc, vous avez des gens qui sont prêts à travailler, qui peuvent peut-être amener des idées, peut-être faire des actions pour aider des causes. Est-ce que, au-delà des dons que vous allez faire à certains organismes, à l'intérieur de votre organisation, il y a peut-être des thématiques, des projets qui sont mis avec des petits groupes pour faire des impacts en ce sens?
Oui, c'est une très bonne question. Tu sais, je prends par exemple, nous autres, on a un comité de développement durable. Puis c'est une initiative qui est venue de nos employés aussi, qui ont proposé de s'occuper de ça. Puis un comité vraiment proactif qui va emmener plein de bonnes idées du genre. Ça peut juste être de mettre une boîte pour recycler les canettes au bureau. Ça peut être, mettons, quand les masques ont commencé au début de la pandémie, de faire affaire à une compagnie qui s'occupe de recycler ces masques-là, qui viennent déposer une boîte pour faire ça. Donc, tous ces petits gestes-là, je pense que ça contribue à justement... améliorer justement la conscience environnementale de nos employés aussi, puis à justement faire participer nos employés, puis à développer un sentiment d'appartenance encore plus fort pour l'entreprise qui vient rejoindre leurs valeurs. Puis je peux rajouter aussi les certifications, des certifications qui sont de plus en plus populaires sur le marché comme B Corp, où ce que même là on est en train de travailler pour l'avoir, qui demande beaucoup de changements dans l'organisation. C'est quand même assez, c'est beaucoup de travail.
C'est pointilleux,
mais il y a des bonnes valeurs ajoutées aussi au niveau de la visibilité aussi. C'est pas juste, c'est du donnant-donnant. Je pense que tu fais un bout pour la planète aussi. Tu vas en chercher une certaine visibilité aussi. Tu sais, je pense que c'est important de le considérer aussi. Puis aussi, tu fais partie d'un réseau aussi, puis t'es fier de faire partie d'un réseau d'entreprises qui participent là-dedans aussi, puis qui contribuent à l'environnement.
Non, définitivement. Puis Claude André, je pense que tu travailles avec Novatens, avec toutes les entreprises qui sont en train de chapeauter. Est-ce que tu fais partie un peu de ces comités-là? Comment tout ça s'intègre chez Statera présentement?
Bien, c'est sûr que tu sais, on est vraiment proche de Novatens avec Statera, fait qu'on s'intègre un peu. Tu sais, on travaille au même bureau, fait qu'on est vraiment dedans, mais je dirais que tu sais toutes les activités qui viennent autour, tu sais comme cette semaine, je pense que vous êtes allé à l'église du Parvis pour remettre comme des boissons aux gens en situation d'itinérance. Mais tu sais, c'est toutes des petites activités qui rapprochent l'équipe, mais qui en même temps aident les autres qui sont pas dans la même chance que tous, tu sais.
Ouais, exactement. Puis je pense que c'est ça. C'est la question que tu dois te poser ultimement, c'est quelles sont les capacités que tu as en tant qu'organisation? Parce que là, à un certain point non plus, tu peux pas créer une autre entreprise pour simplement combler peut-être les enjeux qui n'avaient pas été comblés avec la première. Il y a des endroits, des fois, à l'intérieur de ton entreprise que tu peux utiliser. J'en prends pour exemple, nous, de notre côté, avec J7, on a lancé un programme qui est pro bono. Donc, on a entouré des organisations qui nous étaient chères au Québec. La Fondation Marie-Vincent est une, Opération Enfant Soleil, l'EUCAM. Et ben, on s'est dit, nous, on est capable d'aider les entreprises à gagner en visibilité. Donc, on va leur offrir nos services gratuitement pour les aider en visibilité. Donc, on n'est pas nécessairement une entreprise qui va pouvoir, à la fin de l'année, remettre un chèque de 1 milliard à une entreprise spécifique. Mais si on est capable, avec des capacités qu'on possède, de faire un tout petit impact, ben, c'est bon pour le monde. Puis c'est bon également, faut le dire, pour notre conscience aussi. T'sais. C'est important de le mentionner qu'à un certain point, tu veux travailler pour quelque chose qui est plus que uniquement une paye, qui est plus que simplement des revenus sur un état financier à la fin de la journée, là. Je pense que c'est important de le voir comme ça. Le troisième point que je voudrais regarder avec vous, c'est une recherche que j'ai vue très récemment sur le Pinterest Event, qui est un très bel événement fait par Pinterest, et qu'ils annonçaient bientôt ajouter des étiquettes sur les pages des entreprises sur leur plateforme comme inclusive, vegan, durable. Et j'ai trouvé un chiffre qui est assez intéressant d'ailleurs. 97% des recherches sur Pinterest ne contiennent aucune marque. Aucune marque, simplement des idées, des envies pour les consommateurs. Donc, les gens cherchent des solutions, cherchent des entreprises qui, encore une fois, vont utiliser des termes comme vegan, inclusive, tout ça. Moi, j'aimerais savoir un peu avec vous, je me tourne peut-être vers toi, Jérémia. Est-ce que vous sentez là que c'est une composante importante pour une marque à l'heure actuelle de revendiquer des causes vegan, inclusive, tout ça? Est-ce que ça fait partie d'un jargon marketing qui va être utilisé plus que simplement acheter mon produit? Il est peut-être un petit peu meilleur que la compétition.
Définitivement. Les éléments vegan, cruelty-free, c'est sûr, ça s'adresse beaucoup plus en général à des industries particulières comme la nutrition, les cosmétiques. Nous, dans notre cas à nous, par exemple, des certifications comme OKTEX, Certipure, qui garantissent la clientèle qu'on n'utilise pas des produits chimiques qui peuvent causer des effets néfastes d'un point de vue environnemental, sont très importantes. Et d'ailleurs, c'est une grosse barrière d'entrée pour des produits en exportation venant outre-mer en Amérique du Nord. Parce que beaucoup de ces certifications, dans certains cas, ils ne sont tout simplement pas capables d'arriver à des niveaux qui leur permettent d'obtenir cela. Et donc, beaucoup de marques vont tout simplement décider de ne pas faire affaire avec ces fabricants-là. Là. Qui, je pense, est une bonne chose, là, honnêtement.
Et toi, je me rappelle, on avait une discussion ensemble, tu avais pris la décision, à un certain point, d'arrêter beaucoup de tes importations avec d'autres pays et de ramener ça le plus local possible pour garder ce gage de qualité-là. Donc, ça s'inscrit un petit peu dans la même lignée ici. Ouais. Là.
Au-delà de ça, même, je te dirais, la pandémie nous a même donné un petit coup de pouce là-dessus. On se le cachera pas, le coût des transports, toute la crise, la bonne vieille crise du supply chain a fait en sorte que des entreprises américaines ont ouvert des succursales de manufacture au Canada, dont à Montréal, et on avait encore un fournisseur qui était outre-mer. Ouais. Et ça va se terminer au courant de l'année. Donc, je suis fier de pouvoir dire qu'on aura 100% wow. de notre production, de notre emballage qui va être fait au Québec.
Et ça, c'est un engagement social. C'en est un qui est plus fort que tout, là, de garder ce local au plus possible. Ouais.
Puis au-delà de ça, comme j'avais dit, je pense, lors de notre dernier podcast, c'est aussi quelque chose qui nous permet de beaucoup mieux contrôler la qualité du produit parce que beaucoup d'entreprises vont faire leur développement, le R&D, localement, trouver des partenaires manufacturiers outre-mer pour des raisons de coût. Et là, dans notre cas à nous, on a été en mesure, tout en restant compétitif, de pouvoir développer nos nouveaux produits et de les produire ici même. Donc, c'est une fierté. Ça a une incidence très importante au niveau de l'écologie, de l'économie circulaire aussi. Donc, on en est vraiment très fiers.
Ouais. Ben, félicitations, c'est un très bel accomplissement. Claude-André, vous êtes au départ là, présentement de Statera. Comment ça se déroule un petit peu peut-être sur le positionnement que vous allez faire au niveau de la marque? Est-ce que les termes que j'ai utilisés plus haut ou d'autres, là, bien entendu, qui sont pas uniquement des termes marketing, mais davantage des termes orientés au niveau social, environnemental, est-ce que ça fait partie d'une stratégie de positionnement que vous êtes en train de faire?
Oui, c'est sûr que nous, on mise quand même beaucoup là, sur ces aspects-là, t'sais, vu que c'est un produit aussi consommable. Là, c'est un gin sans alcool, fait que nous, on a comme les tags un peu sans alcool, sans calories, sans glucides.
Vegan aussi.
Sans gluten, vegan. T'sais, on mise là-dessus parce que c'est facilement, après ça, en tant que consommateur, tu peux facilement t'identifier à ce produit-là, puis tu comprends immédiatement. Puis non seulement, nous, c'est un gin sans alcool. Fait que, tu sais, dans une soirée, tu es habitué de discuter avec les gens, puis les gens, ils te demandent tout le temps, ah, puis qu'est-ce que tu bois? Mais là, après ça, tu parle de Statera, puis automatiquement, tu sais, les gens, c'est comme un peu, tu t'associes à ton drink.
Ouais.
Fait qu'est-ce qu'il y a dedans, ça te représente. Fait que les gens, ils, tu sais, ils peuvent facilement comme...
Ouais.
Se représenter par le cocktail qu'ils boivent. Puis c'est tout. Moi, je pense que c'est primordial.
Mmh, intéressant. Pierre-Olivier, je me tourne vers toi. Bon, vous travaillez avec beaucoup de clients là, chez Novatez. Vous envoyez des stratégies de positionnement, du marketing, des gens qui vont, des entreprises qui vont peut-être même se réinventer en 2022 avec le terme qu'on est en train de discuter aujourd'hui, qui est l'engagement social. Ça a été quoi peut-être un petit peu ce que tu as, des faits marquants des 12 derniers mois que tu as vu avec cette entreprise-là?
Je le vois surtout au niveau des nouvelles entreprises. Donc, les entreprises sont un peu plus jeunes aussi. C'est surtout là où je pense qu'il y a le plus gros impact en ce moment dans ce qu'on voit, mais c'est pas que les plus vieilles entreprises font pas leurs efforts là-dessus, mais
c'est plus facile quand tu commences
de déjà avoir cette mentalité là puis de développer des produits. Tu sais, je donne un exemple avec Tellan Stella. Certains produits qui sont faits outre-mer, mais on a quand même focusé pour aller chercher pour développer un produit en fibre de bouteille d'eau recyclée, donc 100% bouteille d'eau recyclée. Fait que même si on va l'exporter d'ailleurs, on va quand même aller chercher ce volet-là environnemental. Puis on était les premiers à faire ça, puis on a vraiment développé un super beau produit en fonction de ça. Puis là, ben tu sais, comme un peu Parley Sleep, ce qu'on travaille beaucoup là-dessus, c'est aller chercher des producteurs québécois, des manufacturiers québécois, des manufacturiers canadiens, puis développer des produits avec eux aussi, parce qu'après ça, une fois que tu as une marque, c'est plus facile après ça de ramener ta production ici puis de travailler là-dessus. Puis je pense que c'est un élément qui est vraiment essentiel, autant pour les enjeux logistiques, shipping, la lenteur aussi des chaînes de production qui sont de plus en plus lentes dans tous les domaines, on le voit dans toutes. Ça a plus que juste l'avantage environnemental, développement durable aussi. Là. C'est rendu très important. Puis tu sais, on a d'autres de nos clients, comme je donne un exemple, Solios, que eux vont offrir, en plus de développer des montres à énergie solaire, ils vont aussi offrir des programmes de recyclage de montres, où ce que tu envoies ta montre, eux, ils s'occupent de la recycler, puis ils te donnent un crédit pour acheter ta prochaine montre chez Solios. Des programmes très intéressants, puis je te dirais que c'est vraiment la mentalité sur la plupart de nos clients en ce moment. Il y a tout le temps un petit volet de développement durable, puis on voit que les efforts sont là, puis c'est pas juste une question de marketing, je pense c'est une question vraiment de valeur ancrée dans l'entreprise, puis dans les dirigeants d'entreprise aussi.
T'as raison, c'est pas simplement une question de marketing, mais force est d'admettre que ça fonctionne. Parce que comme je le disais un petit peu plus tôt, les recherches le montrent, les gens qui vont davantage maintenant en 2022 avoir une intention d'achat sur le Planet First, donc au-delà de la conscience sociale et de ce qui va pouvoir impacter positivement la planète, ça peut avoir des incidences sur les ventes. J'aimerais terminer un petit peu la discussion. Bon, on a parlé engagement social, développement durable un petit peu aujourd'hui. Il y a 18 invités qui sont là pour la journée e-commerce, un autre bel événement que l'équipe des journées e-commerce Novatez ont fait cette année. On a parlé logistique, on a parlé marketing. Je commence avec toi, Jérémia. C'est quoi que tu veux et c'est quoi plutôt que tu viens chercher comme information aujourd'hui? Qu'est-ce qui te manque là, dans ta stratégie présentement avec ton organisation? Est-ce qu'il y a une information spécifique que tu aimerais trouver aujourd'hui?
Je pense que le partage est numéro un. Je viens avec un esprit ouvert. Et j'espère apprendre de mes parts le plus possible parce que, comme on le dit, là, si on ne se réinvente pas aux 6 mois dans notre industrie, du moins d'un point de vue particulièrement marketing de nos jours, on est aussi dépassé que si on ne se serait pas réinventé il y a 10 ans.
Ouais.
Donc, c'est vraiment de voir comment je pourrais voir des éléments de succès que certaines compagnies ou certains partenaires ont réussi à implémenter dans le but de mieux satisfaire leur clientèle et voir est-ce que c'est possible tout simplement de les intégrer à des stratégies actuelles, voire à les remplacer. Donc ça, c'est ce que je m'attends vraiment de la journée aujourd'hui. Et si j'ai la chance de partager quelques bons coups qu'on a...
Parce que tu en as fait des bons coups, là aussi. Ouais. Vous êtes allé vite, Parley Sleep, là. Ouais, quelques années seulement, vous avez dépassé la barre des 8 chiffres. C'est assez fantastique aussi, votre histoire, là.
Ben, je pense que c'est vraiment je dois ça à une super équipe en arrière de moi. Je dois ça vraiment à un focus sur notre obsession à mieux satisfaire le client. On est loin de la perfection, mais on travaille toujours vers ça. Puis je pense qu'aujourd'hui, n'importe quelle entreprise ou n'importe quelle personne qui se part en affaires devrait le faire pour des raisons telles que celle-là. C'est qu'est-ce que j'apporte à la clientèle de différent? Qu'est-ce que je pourrais améliorer dans cette expérience ou dans cette industrie? Et après ça, ben, c'est de l'essai-erreur. Hein? Il n'y a, ouais. A pas de manuel d'instruction encore. Ou si quelqu'un en a un, dites-le moi.
C'est peut-être ça que tu vas chercher aujourd'hui. Essayer de trouver un manuel d'instruction d'une entreprise qui a du succès comme la tienne. Claude, vous êtes au lancement, comme tu le mentionnais, mais est-ce qu'il y a des choses peut-être qui pourraient vous aider? Est-ce que vous êtes dans des réflexions présentement chez Statera sur certains enjeux, qu'ils soient marketing, logistique, commercialisation? Et est-ce que tu penses que certaines conférences aujourd'hui pourraient t'aider en ce sens?
Mais c'est certain. Là, nous, on est vraiment dans le fait de découvrir notre produit puis un peu d'expliquer, tu sais, aux gens, déséduquer par rapport au sans-alcool. Fait que c'est sûr que si on peut trouver des stratégies par rapport à ça, de notoriété, que ce soit sur les réseaux sociaux, des influenceurs, peut-être qui pourraient aider, justement, des stratégies qui pourraient nous aider à faire découvrir le produit, ben ça serait excellent. On est prêt à recevoir tous les conseils et tout... les conseils des pros comme vous.
Puis Pierre-Olivier, je te pose une question qui est différente. Oui. Qu'est-ce qui est différent cette année à la journée e-commerce comparativement à celle de l'année dernière?
Bien, premièrement, on est en présentiel, fait que ça,
c'est... Ah! C'est un gros changement.
Il y a un volet virtuel, mais je pense que le volet, on ne s'attendait pas à autant de monde, pour vrai. On est vraiment content de ça. Mais ce que j'ai remarqué, peut-être plus différent des autres années, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui participent à l'événement, qui ont des commerces électroniques puis qui font de la vente en ligne. Si je recule, mettons, quand on a commencé la journée e-commerce il y a quelques années, il y avait beaucoup, beaucoup moins de gens. Mais là, à ce temps, pas mal tout le monde est sensibilisé. Puis c'est ça qui est le fun au Québec, c'est que là, en ce moment, tout le monde sont conscients, le commerce électronique, c'est présent, le monde travaille là-dessus. On est une très forte communauté, je pense, là-dessus. Le monde s'entraide beaucoup aussi, font beaucoup de collaborations, les entreprises entre elles. Puis je te dirais aussi, pour répondre aussi à la question plus large de juste, mettons, qu'est-ce qu'on vient chercher ici, je pense que le prochain enjeu en ce moment, parce qu'il y a plein de belles marques de e-commerçants québécois qui sont très fortes au Québec, je pense que l'expansion internationale, ça va être le prochain enjeu parce que, oui, on est très fort, hein, ouais. On a une très forte communauté. On reste quand même au Québec, un peu plus isolé, surtout à cause de la langue française aussi, mais surtout à cause de notre culture. Puis c'est là que je pense que le prochain challenge est, c'est comment percer le marché des États-Unis, le marché canadien-anglais même. Puis je pense qu'un événement comme ça, où ce que tout le monde partage, puis beaucoup le partage qu'on fait entre les conférences aussi, puis les stratégies, justement, oui, il y a de l'essai-erreur, on ne se le cachera pas, c'est quand même récent, le commerce électronique, puis les stratégies d'expansion à l'international, ouais. Pour des plus petites entreprises qui commencent web-only, qui n'ont pas une marque avec 10-15 ans d'historique, je pense que c'est là qu'on peut venir chercher de l'information, puis qu'on peut venir, justement, apprendre de ceux-là qui ont essayé des choses.
Fantastique. J'imagine que la COVID vous a donné un petit coup de main pour avoir autant de gens qui ont des commerces en ligne comparativement à la première édition. Là.
C'est sûr que ça a donné un bon boost pour ça, oui.
Fantastique. Jérémia Curvers, Claude-André Lemieux et Pierre-Olivier Brassard, merci beaucoup d'avoir pris le temps dans cette journée chargée. Je pense que vous allez tous avoir des conférences un petit peu plus tard aujourd'hui. Donc, merci d'avoir pris le temps et de nous avoir partagé cette belle information.
Merci Antoine.
Merci.